L'atelier des médias.
J'ai été particulièrement choqué cette semaine en écoutant Éric Laurent chez nos confrères de RTL. Le journaliste a été mis en examen pour chantage et extorsion de fonds. Avec sa consoeur Catherine Gracier, ils ont souhaité vendre leur travail de recherche qui devait donner lieu à un livre sur le roi du Maroc. Contre 3 millions d'euros, ils ne publieraient pas leur enquête. Dans cet entretien sur RTL, Éric Laurent explique qu'il n'y a eu ni chantage ni extorsion de fonds, simplement un deal, une négociation entre différentes parties. Ce sera bien sûr à la justice de trancher. Yves Calvi, qui l'interroge, lui demande tout de même s'il n'y a pas de problème déontologique ou moral, extrait de cet entretien.
C'est mon travail, je veux dire, il y a 20 ans, 25 ans que j'ai fait des livres d'enquête et je crois qu'aucun n'a été contesté. Alors après, je veux dire, ce deal, je n'ai pas proposé, on me l'a proposé de façon insidieuse. Il était évident qu'en effet, c'était pas pour dealer avec moi, c'était pour me piéger, bien entendu. Mais ce deal, je l'ai accepté et c'était un deal personnel. C'est une transaction. C'est mon travail, j'ai le droit de le publier ou j'ai le droit également de ne pas le publier.
Comprenez l'impression d'intrication, l'air malsain qu'on respire dans tout ça. Je pense aussi à ceux nous écoutent, qui parfois ont lu vos livres et vos enquêtes et s'y sont intéressés, se disent « Ah bon, alors on peut acheter les bouquins comme ça, à la limite on peut vendre un chapitre et pas un autre. »
Mais ça n'a rien à voir.
L'honneur de l'enquêteur est donc au sens général des journalistes.
Il y a une chose aussi, ce livre, dans son contenu, était quand même suffisamment explosif pour qu'à un moment donné, il y ait une frontière, effectivement, que peut-être le journaliste d'investigation s'impose, voilà. Parce que c'est vrai que même, quelles que soient mes préventions envers ce régime et cette monarchie et les éléments que j'avais en possession, j'ai pas non plus envie que ça bascule, que le Maroc bascule dans une république islamique, voilà. Ça aussi, il faut être quand même aussi lucide.
Vous nous dites, finalement, j'ai accepté de vendre mon travail, dont vous nous avez dit en début d'entretien qu'il n'appartenait qu'à vous, pour éviter la montée de l'islamisme au Maroc.
Mais c'est une
vous comprenez
raison.
Que ça puisse, enfin, bon, au minimum, que ça puisse faire sourire.
Pourquoi ça fait sourire?
Il y avait une conjonction.
Parce qu'on parle de l'histoire de fric, initialement.
Pardon?
La déontologie, je n'ai absolument pas le soin de recevoir.
Se cacher derrière ses prétendus 30 ans de carrière pour évacuer de la sorte une question aussi importante et embarrassante est au mieux de la bêtise, au pire une malhonnêteté supplémentaire. Cher monsieur Laurent, combien de fois par le passé avez-vous proposé aux cibles de vos enquêtes d'acheter votre silence? Cher monsieur Laurent, ne seriez-vous pas choqué d'apprendre qu'un journal comme Le Monde ou Libération a enterré un papier après avoir obtenu de l'argent des personnes qu'il visait? La seule richesse d'un journaliste et sa probité, son honnêteté. Vos méthodes sont celles de chasseurs de primes. Elles vous déshonorent, bien entendu, et jettent un trouble inutile et supplémentaire dans l'esprit des milliers, si ce n'est des millions de personnes qui ne font pas confiance aux médias. Cette émission est dédiée à nos confrères d'Al Jazeera, poursuivis et enfermés en Égypte, ainsi qu'à ceux de Vice News, arrêtés en Turquie.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon Decreuze.
Et vous.
Nous sommes cette semaine à Visa pour l'image. C'est une tradition pour nous de commencer notre saison à Perpignan en assistant à cette rencontre internationale du photojournalisme. Chaque année, donc, avec Simon, nous parcourons les expositions. Nous assistons chaque soir aussi aux projections qui reviennent sur l'actualité des 12 derniers mois et qui proposent également des portfolios aux sujets aussi divers que la révolution burkinabé, les joueurs de rugby ou les mines de Sibérie. Plus le temps passe et plus notre respect pour le travail des photojournalistes se renforce. Il n'y a rien d'aisé dans ce métier. Le voyage est un inconfort pour ceux qui le pratiquent en permanence. Le témoignage est une intrusion qu'il faut sans cesse renouveler. La narration est une mise en danger. On s'expose à la critique, à la déception à chaque fois que l'on appuie sur le déclencheur. Je ne sais pas si ce que je vous raconte correspond au vécu des centaines de photographes professionnels qui se retrouvent ici tous les ans. Nous avons choisi aujourd'hui de donner la parole à l'un d'entre eux. C'est un des doyens du festival. Il est exposé pour l'ensemble de son travail au couvent des Minimes. Les rétrospectives sont rares à Visa pour l'image. Aujourd'hui donc, retour sur 40 ans de carrière avec le photographe franco-iranien Manoucher Derati.
Altyazı M.K. سیاهه خونه کرده دو تا چشمون سیاهه مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل دمهای منه
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr
Bonjour Manu Cherderati.
Bonjour.
Vous êtes photographe professionnel depuis près de 40 ans. Cette année, Visa pour l'image a choisi d'exposer une quarantaine de clichés que vous avez produits pendant votre carrière. Une carrière qui vous a amené au Proche et Moyen-Orient, mais aussi en France, en Amérique centrale, en Amérique, en Afrique. Vous avez reçu plusieurs prix, dont deux World Press Photo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler ensemble de votre parcours qui est hors du commun et qui vous a amené à photographier une grande partie des grands événements des 40 dernières années. Un mot tout d'abord sur votre sentiment quant à cette rétrospective. Elle a pour titre « La réalité en face ».
Bonjour et merci de cette invitation. Oui, ça fait presque 40 ans que je fais ce métier, si on peut appeler. C'est pour moi, c'est un métier, mais c'est une passion que j'avais dans ma vie. Pendant ces années, bien sûr, je commençais ma carrière pendant la révolution iranienne. Exactement, 78, c'était mon pays natal.
Et an avant le retour de Khomeini en Iran.
Voilà. Donc, j'étais à l'époque étudiant. J'ai étudié cinéma en Italie, à Rome. Et je retournais en Iran. Et comme cinéma et tout ça, ça marchait pas à cause de la révolution, donc je commençais à faire des photos.
Votre frère s'appelle Reza, il est connu également comme photographe. Oui. Il faisait déjà de la photo, il avait d'ailleurs eu des problèmes avec le régime du Shah. Vous avez suivi ses pas, vous travaillez, comment ça s'est passé à ce moment-là?
On a fait plein de choses ensemble dans la vie. On a fait des enfances, on avait notre chambre, un petit coin de chambre noire.
Chambre noire pour développer les photos.
Bien sûr, il a commencé avant moi parce que pendant...
Il a 2 ans de plus que vous. Hein.
Voilà, quand même. Mais ça, c'était encore pendant le show avant la révolution. Et à cause de ses photos et ses activités, et il était arrêté par le police secret du Shah, torturé pendant 3 ans. Et finalement, il est sorti de prison avec la révolution. Donc, tous les deux, on était là, dans notre pays, où ça passait une révolution que personne n'attendait, voilà, une révolution contre le Shah d'Iran. Et les gens, même les jeunes de notre génération, ils nous en appelaient l'œil de révolution. L'œil de révolution iranienne. Parce que c'était ça vraiment, parce qu'on faisait partie de ce mouvement. On voulait changer notre pays en connaissant d'autres cultures européennes ou américaines. Justement, on voulait aussi de changer le régime, système, un système plus démocratique. C'était ça le but. Pas seulement nous, mais même les gens qui étaient descendus dans les rues, qu'on ne parlait même pas de Khomeini ou en révolution islamique. Ça, c'est venu après. Une fois que le Shah est parti, les religieux, les moulins, ils ont pris la tête des révolutions parce qu'ils avaient leur network en visant des mosquées, leur réseau, où ils pouvaient bien manipuler les gens.
Alors on va revenir sur votre début de carrière. Vous avez aussi mentionné 3 ans en Italie où vous avez appris à faire du cinéma. On va peut-être en parler, ou en tout cas l'aborder. Mais avant ça, revenons sur cette rétrospective. C'est la première fois qu'on rassemble vos travaux. Ça fait 40 ans que vous êtes une des figures du photojournalisme. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous rassembliez donc ces 41 clichés sur votre carrière?
Ça c'est à cause de, je peux dire, toutes les années que je travaillais dans les continents et pays différents. Après avoir été exilé d'Iran en 85, je suis venu à Paris, en France, comme je travaillais pour l'AFP à l'époque. Je suis parti, je ne voulais pas rester en France parce que je voudrais toujours faire des photos dans l'endroit où je vis. Parce que je veux comprendre les gens. Je veux que les photos que je fasse donnent l'information la plus profonde possible.
Vous ne voulez pas passer, suivre des cortèges, voyager, revenir, etc. Vous voulez être présent dans les pays, exact, pour les comprendre,
et vivre,
etc.
Et vivre, comprendre, même apprendre leur langue, parler avec leur langue. Je parle plusieurs langues à cause de ça. Parce que
7,
je...
c'est ça?
Oui, 8, 9, enfin... Donc, je suis parti en Amérique centrale. Après 3 ans, 4 ans en Amérique centrale.
Au Costa Rica, à
oui,
San José.
Oui, basé San José, mais j'étais responsable de l'AFP parce qu'ils n'avaient pas un réseau photographique. Donc, je suis allé pendant 4 ans. Je couvrais les événements dans cet pays d'Amérique centrale.
La guerre du Panama, notamment.
Invasion américaine du Panama. J'étais le premier photographe entré parce que je vivais au Costa Rica, El Salvador, Nicaragua et les autres pays d'Amérique centrale. Tout de suite après, quand je sentis que j'avais fait mon travail, je suis parti au Caire 4 ans, après Jérusalem, Palestine, revenu en France parce que j'étais blessé à Ramallah 96. Donc après, je suis parti pour Nations Unies pour Kenya. Donc ça va dire c'était une continuation de voyage, de changement de pays.
Donc vous étiez tout le temps en train de travailler.
Tout le temps en train de travailler.
Que vous n'avez jamais eu le temps d'organiser une rétrospective, quoi.
Mon dernière position, j'étais directeur de photos de Associated Press, AP, pour Moyen-Orient, basé au Caire. En janvier 2011, le 23 janvier 2011, je suis arrivé au Caire. Le lendemain, le 24, je suis allé au bureau pour connaître les gens que je vais travailler. Le 25 janvier 2011, j'étais à Place Tahrir, photographier la première manifestation qui était le début de la révolution égyptienne. Alors ça partit, après on a eu Libye, après on a eu Syrie, Irak et Afghanistan.
Vous avez pris la direction du bureau Associated Press sur le Moyen-Orient à une période particulière.
Très particulière.
Avec beaucoup d'actualités,
beaucoup
de responsabilités.
Beaucoup de responsabilités, avec les dangers. Tous les photographes, vous savez, en travaillant dans ce genre de pays, ils ont blessé ou ils ont tabassé.
Pris en otage.
Donc, toute sa responsabilité. En plus, moi, comme je photographe, quand je pouvais, je voulais sortir faire des photos aussi. Et après 4 ans, j'ai réalisé que je me consommais trop. Et ça devenait trop...
Intense.
En plus, je fille de 10 ans qui vivait avec moi. D'avant son école, au Caire, il y avait des bombes qui explosaient. Il y avait des cadavres dans la rue. Donc, je décidais de m'arrêter. Et je me suis retiré dans ma petite ferme en sud d'Italie. Donc, depuis 1 an et demi, je vis là. Donc, c'est pour ça que j'ai eu du temps de commencer à chercher mes archives, à trouver des photos. Et voilà, cette exposition, c'est le résultat de cette année de vivre en sud d'Italie, dans le ferme, voilà.
Donc revenons sur votre parcours. Après 3 ans d'études de cinéma, vous décidez de retourner en Iran. On sent les prémices de changement. Et vous décidez de devenir photographe. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui déclenche ça chez vous?
Enfin, c'était une autre époque. Les années 70... d'abord, il n'y avait pas beaucoup de photographes. Donc aussi, c'était en plus un moyen de commencer. La photographie, c'est une langue universelle. On n'a pas besoin de lire. Donc en regardant. Donc pour nous, c'était, on peut dire, l'outil plus efficace pour montrer la révolution iranienne au monde. Pas seulement au monde, même en Iran, parce que à l'époque, il n'y avait pas de tous ces moyens de communication. Donc, photos, je me souviens, on faisait des photos de manifs dans les rues, et on faisait des tirages à la maison, et on mettait ça dans les rues. Et les gens, ils venaient à milliers pour regarder ces photos, parce que la télé, ça n'existait pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet. Et les journaux aussi, ils étaient fermés pendant la révolution. Donc, c'était un moyen vraiment de passer l'information aux gens, au peuple.
Vous souvenez de votre première photo?
Très bien, très bien. D'ailleurs, c'était peut-être ça qui m'a convaincu de continuer. Alors, je vous raconte. Donc, je sors dans la rue avec mon appareil que j'avais, avec un objectif. Et ben, je vois les gens dans la rue qui crient « mort au chat, on veut la liberté, démocratie ben, ». Je commence à faire des photos et tout d'un coup, je vois personne autour de moi. Alors, j'entends un bruit d'un camion qui rapproche de derrière moi. Alors, je tourne, je vois cette camion d'armée plein de soldats qui commencent à tirer sur les gens. Et moi, je me mets, j'avais pas du temps de réagir. C'est pour ça que les gens, ils avaient disparu, parce qu'ils connaissaient le bruit de camion. Et moi, je connaissais pas, je croyais. Alors, et je me mets contre un mur, et le camion vient, passe devant moi, et je vois un soldat qui regarde moi, et je regarde, et il regarde mon appareil photo. Il prend son mitraillette, il tire sur moi. Brrr. Et la rafale passe au milieu de ma tête, mais rien n'a tué. Il touche le mur.
Le mur est criblé de balles et vous, vous êtes indemne.
J'étais comme ça, mais je. Alors, et le camion passe et moi, je suis tout choqué. Je m'assis par terre. Et tout d'un coup, tous les gens, ils ont venu vers moi en disant « martyr, martyr », parce qu'ils savaient, ils croyaient que j'étais touché.
Martyr, c'est comme ça qu'on appelle les morts, hein, voilà, dans les morts, ces révolutions.
Voilà, et je me suis élevé, j'ai dit « non, heureusement, je suis pas martyr ». Ils ont dit « ah, nous, on croyait que tu étais mort ». Enfin, alors, c'est là, ces moments-là, je crois, c'est regard dans mes yeux et l'appareil photo. Et le moment où il a décidé de tirer sur moi parce que j'avais un appareil photo, c'était ça le message pour moi. Je dis alors, cet appareil c'est important parce qu'il m'a visé. Parce que les autres, ils tiraient comme ça, sans regarder. Donc c'est là que je vraiment dis, écoute, cet appareil photo, c'est utile. Là, je te convaincu que je dois faire des photos, je dois enfin continuer à faire, et je crois que j'avais pas tort.
Quoi. Et vous étiez initié aussi au caractère dangereux de la profession dès le premier jour ?
Dès le premier jour, c'est ça.
Et donc, le début de votre carrière, vous commencez en 78, jusqu'en 1985, vous êtes correspondant pour plusieurs agences de l'étranger, hein, des agences, l'AFP, SIPA, etc.
Ouais.
Vous êtes correspondant en Iran et vous arrivez à couvrir l'actualité iranienne, donc de la révolution, de l'arrivée de Khomeini, de l'installation du régime de Khomeini en Iran.
Voilà, mais je sais pas comment je fais parce que je n'étais pas bien vu par les autorités parce que je montrais la réalité. Je ne faisais pas de propagande pour le régime islamique. Au contraire, plusieurs fois, ils prenaient mes permis de travail, ils m'emmenaient à l'interrogation. Et finalement, je suis que si je reste. Et voilà.
Vous avez su que vous étiez en danger, quoi.
En danger. Ils m'ont dit, voilà, on se peur plus, ça y est. Donc, je partis avec une valise et je suis venu à Paris et voilà, et après commencer l'autre aventure.
Je vous propose de marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant. On continue cette conversation autour de votre carrière, près de 40 ans de photographie. À tout de suite.
Atelier des médias, nous sommes cette semaine à Perpignan où se déroule la 27e édition du Festival international de photojournalisme Visa pour l'image. Notre invité est un photojournaliste pour le moins international puisqu'il parle au moins 7 langues. Il est né en Iran, a vécu en France, aux États-Unis, au Kenya, au Costa Rica, en Égypte ou en Israël. Depuis 40 ans, il pose son regard plein d'humanité sur le monde. Nous sommes avec Manoucher Degati. Visa pour l'image propose cette année une rétrospective de ses près de 40 ans de carrière. Le titre de cette rétrospective, La réalité en face. Manoucher Degati, je voulais qu'on s'arrête sur quelques-unes des images. J'aurais peut-être dû le faire d'ailleurs dans la première partie de l'émission, mais on a parlé, on est revenu un peu sur votre parcours, vos choix. Et je voudrais qu'on s'arrête sur une première image. C'est une photo qui date de 1982. On y voit une vingtaine de visages ou parties de visages de femmes qui sont bouffées, ces visages, par des voiles et des habits noirs. Les voiles et les habits occupent l'ensemble de la photographie et du coup on voit cette vingtaine de visages à travers la lumière qui les éclaire. Ils sont disposés, ces visages, comme si c'était une danse de manière extrêmement esthétique. C'est eux seuls qui captent la lumière, donc c'est vraiment une image extrêmement belle. Il y a énormément de grâce pour montrer en fait ce qui est peut-être une des choses les plus abjectes du monde, puisque ces femmes, ce sont des prisonnières politiques que vous avez photographiées à une occasion particulière en 1982. Et on voit du désespoir, on voit de la tristesse, mais on voit aussi peut-être de la fatigue, ou en tout cas beaucoup de ces visages ne sont même plus expressifs. Et c'est extrêmement paradoxal en fait cette photographie, puisqu'elle est à la fois très belle, très émouvante et extrêmement esthétique, et elle montre toute l'horreur d'un régime.
Tout à fait. C'est vraiment, c'est une des photos, je ne peux pas dire j'aime bien, parce que je ne peux pas dire j'aime mes photos, mais c'est une photo importante pour moi, parce qu'il y a deux raisons. D'abord, techniquement, comme vous dites, c'est une photo intéressante. On voit cette jeune fille voilée en noir.
Il y en a qui ont l'air d'avoir 15 ans, d'autres qui ont l'air d'avoir 30, 40 ans. Enfin, il y a tous les âges, mais il y a vraiment des jeunes filles extrêmement jeunes.
Et c'était tout opposant du régime islamique. Comme vous savez, il y a eu des milliers et milliers de prisonniers politiques en Iran. Et la majorité de ces gens-là, je peux dire, toutes ces jeunes filles ou les filles dans cette photo, ils étaient exécutés après. Aucune de ces femmes, ils ont survécu cette horrible prison politique qui s'appelle Evin, qui est toujours d'ailleurs existe, qu'il y a encore des prisonniers politiques. Mais à l'époque, c'était une autre chose, c'était encore... il y avait des centaines d'exécutions par jour. Alors, pour arriver à entrer dans cette prison, c'est une histoire de, enfin, que je dois écrire un livre pour raconter. Mais j'ai eu de chance vraiment pour pouvoir
entrer. C'était à l'occasion du 3e anniversaire du régime.
Exactement.
Ils montraient des prisonnières, ils voulaient montrer des prisonniers, c'est ça?
Ils voulaient montrer prisonniers aux invités étrangers. Ils avaient invité des gens de... enfin, les têtes de tous les mouvements islamiques fondamentalistes au monde, et voulaient montrer eux, pas le public iranien. Et moi, comme je connaissais un de ces gens-là, il m'a emmené avec lui comme un des invités.
Donc vous avez passé pour un invité étranger,
voilà,
quoi.
Voilà, je passais pour un invité étranger, en disant qu'il est palestinien. Donc c'est pour ça que je peux photographier. Sinon, aucun Iranien ne pouvait entrer dans cette, enfin, aucun journaliste ou photographe pouvait entrer dans cette prison horrible. Et que ça va dire, si on entrait là-bas, pour sortir, il y avait très peu de chances pour pouvoir sortir. Donc, d'abord, c'est un document historique, parce que c'est la seule photo de l'intérieur de cette prison politique. Et deuxièmement, comme une photo, c'est intéressant, la lumière et la composition.
Donc, on dirait une mise en scène, hein, presque, hein, tellement
exactement.
Elle est belle, la photo.
Tout
et c'est
fait.
Pas le cas, j'imagine, vous n'aviez pas le moyen d'installer les jeunes filles.
Pas du tout, pas du tout.
En 1985, vous êtes contraint de quitter votre pays.
Et là, vous devenez un véritable cosmopolite, c'est-à-dire que vous vivez successivement à Paris, puis à Los Angeles, puis au Costa Rica, puis au Caire. Pendant une dizaine d'années, vous ne vous installez nulle part, en fait. Et vous travaillez donc principalement pour l'AFP dans ces différents pays, avec donc des réalités quotidiennes extrêmement différentes, des contextes extrêmement différents.
Oui, parce que vous savez, quand je quittais l'Iran, bah, c'était, je quittais involontairement. Je voulais pas quitter mon pays, mais je dus quitter. Donc, automatiquement, je entrais dans une période d'exil. Alors ça, bon, d'un côté, c'est difficile parce que tu sais, tu peux pas retourner dans ton pays et tu sais pas si tu peux sortir. Donc, vraiment, je commençais une vie d'exilé. Et là, je pris le côté positif. Je dis, d'accord, je n'ai pas de pays, donc je peux choisir où je veux vivre. Je peux connaître différentes cultures, apprendre différentes langues, en même temps photographier les gens, les cultures que j'ai connues. Donc ça m'a donné encore, je crois, plus de force pour mettre dans mes photos. Parce qu'en connaissant une langue, une culture, je crois que ça aide beaucoup.
Ça doit être aussi dur, fatigant, d'autant bouger, autant se déplacer, se fixer nulle part. Ou non, vous l'avez toujours pris comme quelque chose de plaisant?
Non, il y a toujours un moment de... oui, je même pleurais des fois pour mon pays, parce que... Mais bon, à part ça, comme j'ai dit, j'ai toujours pris le côté positif de vie, en général.
On va s'arrêter sur une autre photographie. Elle date, celle-là, du 1er juillet 1994. Donc, vous savez exactement de laquelle je parle. Elle est prise à un poste frontière, à Rafah, donc la frontière entre l'Égypte et la Palestine. On y voit une foule de dos avec des mains, certaines mains qui sont levées et qui montrent le V de la victoire avec des doigts. Il y a un homme de face qui est au centre, qui est porté par cette foule et qui la salue avec lui aussi une main levée vers le ciel. Il porte son célèbre keffieh blanc et noir autour du visage, et c'est le retour de Yasser Arafat en Palestine après 27 ans d'exil, et c'est une des seules, ou peut-être la seule photo qui existe où on voit Arafat pendant ce retour.
Oui, c'est vrai, c'est la seule photo. D'ailleurs, je peux faire une photo seule de ça, et c'est la photo, parce que c'était enfin un grand événement. Après le traité de paix entre Palestiniens et Israéliens, finalement, Arafat arrive, et après toutes ces années d'exil, et c'était un moment historique. Bah, il y avait peut-être 200 photographes du monde entier dans cet endroit où ils arrivaient. Mais moi, bon, comme je disais, cette connaissance de culture et des langues m'a aidé de pouvoir faire cette photo.
C'est-à-dire,
alors, je suis arrivé là, matin tôt, et je vois, ils avaient mis un tapis rouge, ils avaient mis des chaises bien arrangées, et les gens commencent à arriver, à s'asseoir. Et moi, en connaissant la culture de Kouan, je disais, ça ne va pas passer comme ça. Quand il arrivera, ça sera un bordel. ça sera, comment dire, neutre.
On peut dire.
Donc, alors j'attendais ça. Je suis que ça va pas comme ça. Les autres photographes, ils avaient bien installé, voyez, en pensant que. Et moi, dès le début, je sentis que je dois être prêt pour la confusion, pour. Alors, j'avais raison. Donc, et pendant ce temps-là, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je même imaginais, je crois. Bon, dès qu'il arrive, tout le monde, ils vont se lever, ils vont aller vers lui. Alors, je dis, alors, j'ai besoin d'être un peu plus haut des autres pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je gardais une de ces chaises avec moi. Je baladais avec les chaises et tout le monde, il m'a regardé, il disait, il est fou, quoi. Il est bas, on meurt. Voilà. Et tout d'un coup, on entend ce bruit de milliers de gens qui arrivent de frontière avec Arafat. Une confusion. Tous ces gens qui étaient assis, ils commencent à courir vers eux. L'autre millier de gens. Le poussière, le bruit, on ne voit pas Arafat. Personne ne voit Arafat.
Qui est en plus petite taille. Donc
voilà, en petite taille, après des milliers de gens autour de lui. Alors je montais sur ma chaise et je regardais, pas d'affaire. Je voyais où ça peut trouver, parce que tu voyais le centre, mais on ne voyait pas. Et c'était le moment où, pour peut-être 2 secondes, ils l'ont soulevé, ils l'ont un peu, quelqu'un l'a pris, ils l'ont mis,
ils l'ont porté, quoi,
ils l'ont soulevé, et je fais une photo. Et c'était donc, c'était la seule photo de tous ces 200 photographes qui étaient là. Et c'était ma photo, parce que. Voilà, j'étais préparé pour cet événement, on peut dire.
Et c'est aussi peut-être une leçon de photographie, parce que c'est un peu paradoxal. C'est un événement nécessairement historique, il revient après 27 ans, etc. Et si vous n'étiez pas proche de la scène, si vous n'aviez pas une chaise, et si les manifestants ne l'avaient pas soulevé quelques secondes pour vous permettre de prendre la photo, eh bien, on n'aurait pas pu représenter ce moment, en fait. Et
non.
On aurait eu une foule, quoi.
Une foule, voilà. Oui, c'est ça. Et les autres photographes, ils ont de la foule. Donc,
On passe à une autre image qui est donc comme celle d'Arafat montrée dans l'exposition. C'est 2 ans plus tard. Là, c'est un changement de décor complet. Il y a 3 militaires français en habit d'apparat sous les dorures de l'hôpital des Invalides à Paris. Ils sont tous les 3 en fauteuil roulant.
Comme moi aussi. Moi, j'étais sur fauteuil roulant aussi, quand je fais cette photo. Alors, la raison où je me trouvais aux Invalides sur un fauteuil roulant, c'est que 1996, septembre, j'étais responsable des photos de l'AFP pour Israël-Palestine. Et le 26 septembre, il y avait un conflit à Ramallah entre les Palestiniens et l'armée israélienne. Et ben, j'étais visé par un franc-tireur israélien. Et j'étais gravement blessé. Ma jambe, c'était une balle explosive en plus. Donc c'est comme ça que je me suis trouvé aux Invalides.
Parce que vous travaillez à l'AFP, on vous a rapatrié après un mois de soins intensifs en Israël. Avez été rapatrié en France pour être soigné dans cet hôpital qui normalement n'accueille que des militaires. Hein,
bien
des
sûr, militaires j'étais le seul non-militaire. Et en plus, pour eux aussi, j'étais quelqu'un d'un peu exotique, un photographe iranien en plus.
Vous aviez la nationalité iranienne, hein?
Oui, oui, toujours à l'époque, j'avais la nationalité iranienne. D'ailleurs, c'était un problème, parce qu'à l'époque, l'Iranien, c'est toujours des terroristes. Donc, et je travaillais pour l'AFP, je voyageais. Dans chaque aéroport que je descendais, tout de suite arrêté, interrogé pendant des heures. Finalement, quand on voyait que je travaille pour l'AFP,
on vous libérait.
Oh, j'ai appelé l'ambassade. Il y a plus beaucoup d'histoires. Voilà, c'est comme ça que je restais presque 2 ans aux Invalides.
Avant 2 ans à l'hôpital.
2 ans à l'hôpital. Et là aussi, je pris le côté positif. Donc, d'abord, l'AFP, je peux dire, ils étaient très gentils. Ils m'ont bien soutenu. Ils avaient même installé des scanners dans ma chambre d'hôpital.
Pour les photographies. Pas des scanners médicaux.
Non. Scanner de photos, mes archives. Je commençais. En plus, ce que j'ai découvert aux Invalides, qui est très intéressant, parce que même mes collègues journalistes, ils ne connaissaient pas ça. Enfin, Invalides, il y a 2 parties. Il y a une partie pour se soigner. Et l'autre partie, il y a 110 appartements où ils vivent tous les vétérans de guerre français, de première guerre jusqu'à aujourd'hui. Enfin, les 3 soldats français que vous voyez sur la photo, c'était le casque bleu qui était blessé au Balkan.
Tout jeune à l'époque. C'était la guerre des.
Et même dans cette photo-là, au milieu, il y a un monsieur.
On voit avec un uniforme bleu, lui.
Il est de première guerre. Il est un poilu. Il avait 103 ans à l'époque. Mais il vivait là. Donc j'ai découvert ce monde. Et ces gens qui. il ne me regardait pas comme en plus photojournaliste. Moi, j'étais un des eux, j'étais sur les chaises roulantes, je entrais dans nos chambres, on mangeait ensemble, on bouait ensemble. Il m'a raconté des histoires qu'il n'a jamais raconté un journaliste. Il m'a montré leur trophée de guerre, de première guerre, Corée, des partisans de deuxième guerre, tout. Guerre d'Algérie, ils étaient tous là. Donc j'ai découvert cet monde incroyable. Et je photographiais, j'avais mes appareils photo sur moi et je partais, je faisais des photos et finalement, à la fin quand je quittais l'hôpital, je publiais pas mal et tout le monde était étonné des découvertes de cet endroit incroyable, cœur de Paris, quoi.
Alors, on va essayer d'accélérer parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Et puis, vous avez une carrière très riche. Hein. Là, vous l'avez commencé il y a 20 ans, quand on est en 1996. Vous retournez à Ramallah, vous faites la photo, la célèbre photo de Lionel Jospin, donc à l'époque Premier ministre français, qui est protégé par une valise blindée devant l'université de Bir Zeit parce qu'il avait tenu des propos un petit peu polémiques, etc. Il a été un peu agressé. Vous réussissez à prendre cette photo et vous êtes d'ailleurs à nouveau blessé à Ramallah. Ça, c'est en 2000, c'est ça?
C'est ça, voilà. Alors, ce qui s'est passé, quand je suis sorti de l'hôpital, je commençais à aller au bureau, à l'AFP.
Vous faites des photos à Paris, hein?
Voilà, commençais à faire un sujet, je fais un sujet sur Tour d'Eiffel.
Ouais.
Qui était assez intéressant, finalement. Enfin, et après, ben, je commence. Une fois que je pouvais, je pensais que je voyageais, je suis allé à la rédaction, je dis, écoutez, ça y est, je suis prêt, je veux partir. Ils m'ont dit, non. Tu ne vas pas partir dans où il y a conflit. Tu vas commencer à faire des voyages officiels. Tu vas protéger. Je voyageais avec monsieur.
Délégation.
Président Chirac. On est allé voir Clinton. Je voyageais avec. Enfin, cet voyage était avec monsieur Jospin, qui est mal fini. On est retourné à Ramallah, où j'étais blessé la première fois. Ou alors, cet incident a passé. Et je restais pour faire photo. D'abord, là aussi, c'est la seule photo de cet incident. Parce qu'il y avait des autres photographes, mais ils ont parti parce que c'était...
Il y avait des jets de pierre.
Des jets de pierre, quelques cailloux dans ma tête, ma jambe, mais c'était pas grave. Je continuais à faire photo. Et tout d'un coup, ils ont emmené une voiture blindée. Ils ont mis M. Jospin dans la voiture. Et moi, j'étais devant la voiture. Et la voiture, elle est partie. Ben, avec une vitesse assez folle, et il a passé sur ma jambe, la même jambe où était blessé dans la même ville, dans la même date, quoi.
Donc, le même jour exactement.
Le même jour de moi. Pas le même mois, mais bon. donc voilà, c'est. Et bref, retour aux Invalides encore 6 mois, et la même histoire. Donc voilà.
En 2002, vous quittez l'AFP, vous allez à Kaboul, où avec votre frère, vous fondez une école de journalisme et vous dirigez la branche photo, une branche qui donc forme des jeunes Afghans à la photographie, avec succès, avec beaucoup de succès, puisque un de vos élèves, 10 ans plus tard, en 2012, obtient un prix Pulitzer, donc qui est le prix le plus prestigieux pour le journalisme aux États-Unis.
Oui, justement, ça c'était juste après chute des talibans. Donc moi et mon frère Reza, qui est photographe, qui est connu, et on a décidé, donc, à cause de notre relation avec Afghanistan, qui est un pays voisin, on a même culture proche d'Iran, on parle la même langue, on a décidé de vraiment rendre quelque chose. On a dit, ces gens-là étaient occupés par les rues soviétiques, Mujahideen, après 7 ans de Taliban, où les écoles étaient fermées, la photographie était interdite. On dit, alors c'est le moment où on va là-bas et on passe notre expérience.
Vous ne pouviez pas avoir ce type d'investissement dans votre pays à vous, qui était encore occupé par,
exactement.
Par le régime donc, des Mollahs.
Exact. Donc, voilà, on est allé là avec moyen de beurre. On a commencé à prendre des élèves. Et pour nous aussi, c'était important d'emmener des journalistes et photographes femmes, parce que ça n'existait pas en Afghanistan.
Vous avez formé des femmes comme des hommes?
On a formé, oui, on peut dire moitié-moitié. C'était difficile, c'était rare que les Afghans ils laissent leurs filles et filles de faire un école de journalisme, photographie, mais à cause de confiance qu'ils ont ou à nous, en connaissant leur langue, leur culture. Donc on a pu vraiment former, moi je formais 7 photographes femmes afghanes qui n'existaient pas, et les autres aussi, les garçons, ils ont devenu des photographes célèbres qui travaillent pour toutes les agences.
Comme Massoud Hosseini, qui est donc prix Pulitzer 2012. Et cette organisation, cette école, ça s'appelle AINA, c'est ça? C'est le miroir?
Miroir, ça, AINA ça veut dire miroir en persan, oui.
On va conclure un peu sur votre regard sur cette carrière. D'abord peut-être votre regard sur la politique ou l'évolution politique du monde, de cette région. Vous avez commencé en couvrant une révolution qui était porteuse d'espoir, qui maintenant n'est plus du tout porteuse d'espoir, donc la révolution iranienne. Vous avez fini, ou en tout cas jusqu'à maintenant, votre carrière dans les agences en couvrant à nouveau des révolutions qui, à nouveau, sont porteuses aussi de désespoir avec l'évolution du groupe État islamique, la violence d'État en Égypte, où vous étiez basé, etc., etc. Quel regard vous portez sur cette évolution? D'autant plus que le métier de journaliste, c'est aussi pour informer, pour que le monde évolue, pour que les gens soient conscients que ça change. Et c'est vrai qu'il y a quand même du désespoir actuellement. On n'a pas le sentiment que sur les 40 dernières années, le monde, d'un point de vue politique, va dans une direction qui porte vers l'optimisme.
Enfin, dans toutes les révolutions, quand ça commence, on a espoir. Alors, comment ça se finit, ça c'est une autre histoire. Enfin, j'avais l'expérience de révolution en Iran, ailleurs, en Amérique centrale. Mais quand le mouvement commençait en Égypte, on pensait que ça s'ouvre. Peut-être on n'apprend pas de leçons d'histoire. Mais c'est tellement fort, ce genre de mouvement, qu'on le croit. Parce qu'on voit les gens qui veulent donner leur vie pour changer.
Pour la liberté.
Pour la liberté.
Pour la démocratie.
Pour la démocratie. Alors, ça, malheureusement, dans les pays, surtout Moyen-Orient, toujours, jusqu'à maintenant, c'est mal fini. Ils ont allé de mal, beaucoup plus le pire. Iran, Irak, Syrie, voit maintenant Libye.
Yémen,
tout. Tout est parti. Alors, les raisons, ça, c'est, on peut parler des jours. Mais moi, vraiment, je vais attendre la vraie révolution. Et je crois que ça va arriver.
Vous restez optimiste?
Je reste optimiste et je crois que ce genre de mouvement, c'est le début d'un gros changement dans la région. Alors, la destruction, oui, tous les pays Moyen-Orient, ils ont presque détruit. C'est un poème Soufi Persan qu'ils disent, quand la destruction arrive à un point où on ne peut plus détruire, on est obligé de construire. Alors, je crois qu'on est dans cette phase-là.
Autre domaine totalement, la photographie. Ici à Perpignan a été présenté un livre noir de la photographie par la SCAM, donc une société d'auteurs. Bon, il y a beaucoup de pessimisme, beaucoup de marasme, beaucoup de peur quant à l'avenir de cette profession, à l'impact de la numérisation sur les métiers, etc. Quel regard vous portez, vous, sur ça?
C'est pareil, c'est exactement la révolution. On est en train de vivre une révolution technologique. Donc voilà, c'est normal que comme les autres révolutions, il y a des côtés positifs et négatifs. Et même je crois fortement que tout ça, c'est positif. Parce qu'on est dans une phase de transition maintenant. C'est pour ça qu'il y a confusion. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont peur de cet changement radical. Mais pour moi, je vois pas comme ça. Je vois qu'il y a espoir. Je crois que cette moyen de communication a un côté positif qui a vraiment bouleversé les moyens de communication dans un direction très positive pour moi. Mais on est dans une phase un peu confuse à cause de transition.
Dernier point, dernière question qu'on va aborder, c'est aussi un sujet d'actualité. Vous êtes basé dans le sud de l'Italie, on en parle beaucoup aujourd'hui avec les migrants qui arrivent de tous les pays en guerre, de tous les pays avec des difficultés économiques, qui passent pas loin de chez vous en arrivant par la Sicile. Quel regard vous portez-vous en tant que voyageur permanent depuis 20 ans quasiment, migrant vous-même naturalisé français, quel regard vous portez sur ça?
Je le comprends bien et je crois que les pays européens, ils doivent ouvrir leurs ports à ces réfugiés, comme d'ailleurs les Allemands, ils ont fait. Parce qu'ils sont, à mon avis, eux-mêmes, ils sont coupables parce qu'ils ont passé cette période. Ils étaient réfugiés eux-mêmes, leur pays était détruit complètement. Donc ils comprennent ces gens-là, ils comprennent pourquoi ces gens-là, ils quittent leur pays. C'est désespoir, ils préfèrent de mourir en route qui est mourir dans leur pays, c'est ce qu'ils disent.
Merci Manoucher Degati. On trouvera sur l'atelier des médias la version longue de cet entretien et des liens vers vos différents projets. Bonne continuation.
Merci à vous.
Rejoignez la communauté de l'atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission 391 de l'Atelier des médias proposée par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadawi, Simon De Creuse et Ziad Malouf. Pour nous réentendre, c'est sur rfi.fr, soundcloud.com et sur toute bonne application de podcast. Si vous nous écoutez alors que vous êtes en train de courir ou de marcher dans la ville ou la campagne, vous faites bien, partagez la pratique du podcast autour de vous et n'hésitez pas à commenter notre émission sur les différents réseaux de partage audio. Merci à toute l'équipe de Visa pour l'image et à Second Bureau pour leur aide. Salut à Anthony Ravera du service communication de RFI, toujours présent à Visa, toujours disponible, aimable et professionnel. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, des bonus.
Des bonus.
Ben, ça continue sur Internet.